vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Rise of the Ronin. On parlera ensuite des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Du news concernant le jeu The Plucky Squire. On aura ensuite une news technologie, attention. Vous pouvez désormais acheter un robot chien équipé d'un lance-flamme pour 9 000 $ et tout ça, c'est légal. Voilà, voilà. Et on finira avec les sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec le test de Rise of the Ronin. Donc c'est un jeu vidéo d'action RPG qui est jouable en solo. Il a été réalisé par Fumihiko Yasuda avec la musique que vous entendez de Inonzur. Il a été produit par Fumihiko Yasuda encore, développé par Team Ninja et publié par Sony Interactive Entertainment pour la PlayStation 5. Voilà, donc c'est une exclusivité PS5. Il est sorti le 22 mars 2024. Rise of the Ronin vous mettra dans la peau d'un Ronin, un samouraï sans maître. Dans ce monde ouvert axé sur les combats, le héros survivra dans un Japon en pleine transformation à la fin de la période Edo, qui est longue de 300 ans. Une période particulièrement sombre, faite de dirigeants oppressifs, infestés de maladies mortelles et berceau d'une guerre civile. Le jeu est classé PEGI 16 et il obtient une note de 15 sur 20 de la part de jeuxvideo.com pour une note globale de 76 sur 100 sur Metacritic. Donc annoncé comme le projet le plus ambitieux de la Team Ninja qui est notamment à la tête des jeux Nioh et Wolong, Rise of the Ronin s'éloigne des habituelles actions RPG de l'équipe et tente le pari du monde ouvert dans un Japon à la croisée des chemins. Entre exploration, narration et combat exigeant, est-ce donc une formule qui fait mouche? Donc au programme de Rise of the Ronin, un monde ouvert dans les années 1850 au Japon pendant la période Bakumatsu. Donc un moment tout à fait charnière dans l'histoire du pays, la dynastie Tokugawa qui a régné pendant plus de 250 ans touche à sa fin et l'archipel s'ouvre enfin au commerce et à la modernité. Bien sûr, ce changement n'est pas du goût de tout le monde. D'un côté, on retrouve les pro-shogunats qui veulent conserver l'ordre établi et de l'autre, les anti-shogunats qui espèrent tout l'inverse. Dans tout ceci, on incarne un personnage 100% personnalisable qui recherche quelqu'un cher à son cœur. Un but simple mais tout à fait adéquat qui nous amènera à collaborer avec les deux camps jusqu'au moment où la Team Ninja nous demandera d'en choisir un. Car en bon jeu d'action-aventure, Rise of the Ronin accorde une place très importante à la narration. Il y a d'ailleurs un doublage français intégral. Il y a des dialogues à choix multiples, des réponses qui demandent au préalable la compétence mensonge ou intimidation, et même un système de liens qui rend compte de votre entente avec toute une panoplie de personnages. Bien que les retombées de ces mécaniques soient quelque peu artificielles, on est quand même loin d'un Baldur's Gate 3, la Team Ninja nous met face à certains gros dilemmes qui peuvent avoir des conséquences assez importantes sur la suite du scénario. Une bonne chose est dans l'ensemble, l'écriture du studio rend plutôt honneur à cette époque si spéciale du Japon. Les dialogues ne sont pas toujours super inspirés, surtout ceux des quêtes annexes, mais rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Certains protagonistes sont attentifs aux progrès technologiques et médicaux venus d'Angleterre ou des États-Unis, quand d'autres sont animés par une forme d'allégeance, de vengeance et même de réforme. On se retrouve avec une profusion de personnages, ce qui n'aide pas toujours à suivre le récit, en particulier à la fin, mais heureusement, il est possible d'appuyer sur pause pendant n'importe quelle cinématique pour consulter des informations sur l'univers et ses acteurs. Pour autant, Rise of the Ronin n'embarque pas plus que ça, surtout à cause de sa structure et quelques plot twists pas forcément évidents à saisir. Deux raisons à cela, la Team Ninja peine à donner un réel intérêt à ses quêtes annexes, et ce même quand celles-ci concernent un personnage important. Ensuite, ces quêtes reprennent bien souvent le schéma d'une mission principale, c'est-à-dire un niveau classique à la Wolong et à la Nioh, avec une zone exiguë, quelques embranchements, des ennemis standards et un boss. Un schéma qui accuse le poids des années et qui peine à rendre compte des enjeux de Rise of the Ronin. Le jeu nous fait ainsi rarement vivre ses plus grands moments de l'intérieur, et en marge des combats en abondance, on est plus souvent spectateur, au travers des cinématiques, qu'acteur. À terme, l'expérience de la Team Ninja ressemble plus à des levels de Nioh reliés par une zone ouverte qu'à un monde ouvert uni. En somme, on ressent le manque d'expérience du studio sur ce domaine et l'exploration en elle-même en fait les frais. La découverte du Japon de l'équipe japonaise n'est pas très organique, se repose plus sur le GPS de la carte que sur la lecture visuelle de l'environnement. Sur Rise of the Ronin, la carte est découpée en plusieurs zones et chacune dispose d'un niveau de connaissance qui, à mesure qu'il augmente, fait apparaître des points d'intérêt aux alentours. Le moyen le plus rapide de tout dévoiler, c'est de libérer des camps du joug de bandits. Ces camps sont au nombre de 1 à 3 par zone et lorsqu'ils sont nettoyés, la carte se met automatiquement à jour. D'ailleurs, on sent que l'équipe japonaise a voulu capitaliser sur sa plus grande force, son système de combat qui se retrouve au centre de quasiment toutes les activités. Rise of the Ronin ne propose pas d'enquête à la The Witcher 3, de mission qui se résout uniquement par le dialogue. Chaque fois, ça part sur de la castagne, et après 40 heures de jeu, malgré tout le bien qu'on pense des phases d'action, ça fait quand même un peu beaucoup. Ça affecte non seulement l'impact de l'aventure principale, mais également l'exploration, dont les points d'intérêt se répètent du début à la fin. Malgré tout, l'exploration de Rise of the Ronin n'est clairement pas désagréable. Les déplacements de notre personnage sont super fluides, dynamiques, avec la possibilité de grimper sur tous les rebords à bonne hauteur. On peut également se hisser vers un point d'accroche avec le grappin, déployer un planeur et se déplacer à cheval. Donc c'est simple, mais très efficace et ça donne une saveur pas mal chouette à l'infiltration. Bref, les sensations sont bonnes et l'un dans l'autre, on en oublierait presque la technique fléblarde qui s'en sort grâce à une belle ambiance sonore et de jolis effets de lumière. Je vous conseille d'ailleurs de rester sur le mode 60 FPS qui est quasi obligatoire pour apprécier le gameplay. Voilà, on va faire une petite pause dans ce test, on va s'écouter une musique extraite de l'OST du jeu Rise of the Ronin. C'est Jaws of Death, composé par Inonzur, et on revient juste après. Donc c'était la musique Jaws of Death, extraite de l'OST du jeu Rise of the Ronin, qui a été composée par Inonzur. On continue donc avec la deuxième partie de ce test, et on en arrive au combat. Donc sur ce point, la Team Ninja a fait du très bon boulot, même si elle a sans doute été un peu trop généreuse. En gros, les affrontements sont une sorte de synthèse entre Nio et Wolong. D'un côté, il y a l'équivalent d'une barre d'endurance, ici appelée le Ki, qui vous permet de balancer des attaques, de parer et d'esquiver, et qu'il faut bien surveiller si vous ne voulez pas finir sans défense au corps à corps. De l'autre, il y a une grosse emphase sur la parade et les capacités spéciales, qui sont le meilleur moyen d'épuiser l'énergie de votre adversaire, et de lui lâcher un finish move très puissant. Mais ce ne sera pas forcément évident. Chaque coup que vous recevrez fait également baisser votre endurance, ce qui veut dire que la parade, qui n'est donc pas toujours évidente à placer, n'est pas forcément la meilleure option. Souvent, il est donc préférable de bloquer puis de parer, ou bien carrément d'esquiver et d'attendre que le ki remonte. Bref, les combats sont géniaux, à la fois tactiques, lisibles et viscéraux. On regrette juste une intelligence artificielle un peu trop souvent dans les choux, dont les mouvements sont soit trop erratiques, soit trop absents. Mais comme je le disais, la Team Ninja pêche un peu par générosité. Comme d'habitude, en marge d'un goût très prononcé pour le loot, le studio propose plusieurs types d'armes, qui sont ici moins nombreux que dans Nioh ou dans Wolong. Entre le katana, l'odachi ou le fusil baïonnette, 9 catégories vous attendent. Leur petit nombre s'explique simplement. Chaque famille profite de plusieurs styles de combat et chacun de ces styles symbolise une panoplie d'attaques uniques, c'est-à-dire de nouveaux coups de base, des techniques spéciales inédites et même de légers changements sur la parade. Certains outils comme le katana disposent à terme d'une dizaine de styles distincts dont les capacités elles-mêmes peuvent être modifiées si votre progression le permet. Tout ça sachant que votre héros peut porter jusqu'à 6 styles en même temps au travers de ses deux armes principales. Bref, les possibilités sont énormes et après 40 heures de jeu, on a encore du mal à tout retenir. Ce qui peut sembler être une richesse folle est plutôt apparu comme un problème de dosage étant donné que Rise of the Ronin ne nous encourage jamais vraiment à maîtriser tout ça. On note seulement ici la présence d'un marqueur rouge et bleu au-dessus de la tête des adversaires, ce qui indique si le style de combat actif est plus ou moins efficace. Même le endgame, qui déverrouille le mode nuit noire et vous invite à recommencer des quêtes en difficulté maximale, ne va pas dans ce sens. Au final, tant qu'on maîtrise son timing, son endurance et ses parades, n'importe quel style peut faire l'affaire face à n'importe quel vilain. Après, ça laisse au joueur une grosse marge de manœuvre et ça, c'est super bien. En marge des armes blanches, Rise of the Ronin donne d'ailleurs accès à tout un arsenal secondaire avec des choses plutôt inédites pour le genre, comme un lance-flammes, un fusil, un revolver. Donc pour autant, rien de révolutionnaire et l'intégration des armes à feu au gameplay s'avère même un poil décevante. Avec le recul, ce souci de dosage vient sans doute de la volonté de créer un action RPG exigeant, complet, mais plus accessible que la moyenne, ce que la Team Ninja parvient à réaliser sur d'autres aspects. Donc prenez le système d'expérience par exemple, qui donne accès à un arbre de compétences assez complet. Ici, l'expérience fonctionne en deux temps. D'un côté, il y a le niveau général de votre héros, qui augmente au gré des combats et des missions et qui vous rapporte des points de compétences classiques. Et de l'autre côté, il y a le karma, qui s'obtient exclusivement en combat et qui vous offre des points d'expérience rares. Le truc, c'est que le karma peut facilement vous glisser entre les doigts. En cas d'échec, c'est l'ennemi qui vous a donné la mort qui garde ce précieux butin, et pour le récupérer, il faut donc soit le battre, soit lui esséner un finish move. Avec ce système, la Team Ninja concilie donc à la fois la tension d'un titre From Software et une progression plus traditionnelle. Idem pour la difficulté, il y en a 3 niveaux que vous pouvez modifier à tout moment, donc pas de stress si vous butez face à un boss. Tout est fait pour que vous puissiez progresser malgré tout. Si ce n'est pas suffisant, il y a toujours de quoi faire. Un système d'assist où des personnages croisés durant l'aventure viennent vous prêter main forte et un mode coopération en ligne jusqu'à 3 joueurs, uniquement accessible en mission. Bref, à défaut d'être parfait, Rise of the Ronin offre une expérience super complète et les ninjas les plus aguerris pourront personnaliser leur équipement à l'extrême grâce au système de transfert de liens qui sert à basculer les bonus d'une arme à l'autre et même décorer la Nagaya, la base où votre personnage pourra se reposer, exposer ses items souvenirs et discuter avec ses amis. Donc pour résumer les points forts du jeu, on a des combats réussis et profonds, un effort notable sur l'écriture, une époque qui est fascinante au Japon, un jeu à la fois exigeant et accessible, et on a une expérience très complète qui se termine à peu près en 40 heures. Pour les points faibles, on a des missions à la Nioh qui plombent le récit, l'exploration qui est trop mécanique, des combats qui en font trop, et la technique qui est vraiment à revoir. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre musique extraite de l'OST du jeu Rise of the Ronin, c'est Battle Pro Shogunate 1, composé par Inonzur, et on revient juste après. c'était la musique Battle Pro Shogunate 1, composée par Inanzur et extraite de l'OST du jeu Rise of the Ronin. On va faire une petite pause publicité et on reviendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Une news jeux vidéo, une news technologie et on finira avec les sorties de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec le top des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch. On a en 5ème place Gran Turismo 7 sur PS5, un jeu de Sony. En 4ème place c'est Mario vs Donkey Kong sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 3ème place Super Mario Bros Wonder sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 2ème place c'est Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Et en première place, c'est Princess Peach Showtime sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Voilà, alors pour la PS5, ensuite, on a en troisième place EA Sports FC 24. En deuxième place, c'est The Last of Us Part 1. Et en première place, Gran Turismo 7. Le top 3 pour la Xbox Series, on a en troisième place Skull and Bones. En deuxième place, Assassin's Creed Mirage. Et en première place, Forza Horizon 5. Le top 3 pour la PS4, on a en 3ème place Spider-Man Miles Morales, en 2ème place EA Sports FC 24 et en 1ère place Gran Turismo 7. Pour la Xbox One, on a en 3ème place Hogwarts Legacy, en 2ème place c'est Grand Theft Auto 5 l'édition Premium et en 1ère place c'est la trilogie des Dark Souls. Le dernier top c'est le top 3 PC avec en 3ème place EA Sports FC 24, en 2ème place Minecraft Java and Bedrock. Et en première place, c'est Fallout, l'anthologie spéciale. On continue donc avec la news jeux vidéo. Donc certains diraient que l'année 2024 est peut-être un peu calme côté sortie de jeux vidéo. D'autres attendent avec impatience l'arrivée de quelques jeux indépendants. Parmi eux, l'un des plus attendus a récemment confirmé son arrivée pour cette année. Donc si la comparaison avec l'année exceptionnelle qu'était 2023 se fait forcément un peu sentir, il faut bien avouer que l'année 2024 a tout de même su nous gâter depuis le mois de janvier. Entre Prince of Persia The Lost Crown, Tekken 8, Like a Dragon Infinite Wealth, Final Fantasy VII Rebirth, Dragon's Dogma 2, et on a également Princess Peach Showtime et Stellar Blade, pour n'en citer que quelques-uns, les joueurs ont eu de quoi s'occuper en quelques mois à peine. Cependant, c'est finalement en regardant la scène indépendante que toute la saveur de l'année se fait sentir. En effet, rien que depuis le début de l'année, les jeux indépendants ont parfois réussi l'exploit d'être à la fois plus populaires, voire meilleurs, que les jeux édités par des grosses entreprises. On pense par exemple à Palworld, Enshrouded, Balatro, The Thaumaturge, Tales of Kenzera Zo, Another Crab's Treasure, ou bien sûr encore à Helldivers 2, dont le succès a surpris beaucoup, absolument tout le monde, et continue encore de bien se faire sentir aujourd'hui. Mais le mieux dans tout ça, c'est que cet élan n'est même pas prêt de s'arrêter puisque certains des jeux indépendants les plus attendus de 2024 ne sont pas encore sortis comme Hades 2 ou encore un certain The Plucky Squire. Présenté au Summer Game Fest de 2022, The Plucky Squire n'a pas mis bien longtemps avant de devenir l'un des jeux indépendants les plus attendus des joueurs. Il faut dire qu'entre son esthétique léchée et son concept qui plonge le joueur dans un livre de contes, tout en lui permettant d'en sortir pour mélanger les niveaux en 2D et en 3D, le tout donne très envie d'y jouer. Après avoir récemment annoncé que le jeu serait traduit dans plusieurs langues, dont le français, le jeu développé par All Possible Futures a d'ailleurs changé de nom pour devenir donc en français Le Vaillant Petit Page. Plus récemment encore, les développeurs ont tenu à rassurer les joueurs concernant la date de sortie de leur nouveau bébé, je cite, « Nous lancerons Le Vaillant Petit Page cette année, nous n'avons pas encore annoncé de date de sortie, mais nous travaillons dur pour sortir le jeu sur PC et console en 2024, donc restez à l'écoute. » S'il vous tarde déjà de mettre la main sur le jeu aux côtés de Jot, donc le fameux Vaillant Petit Page, vous pourrez donc bien le faire cette année. Notez par ailleurs que le titre de All Possible Futures est bien prévu pour une sortie sur PC, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà l'ajouter à votre liste de souhaits sur les différents marchés numériques. On passe maintenant à la news technologie. Donc, aux États-Unis, une entreprise vend désormais le Terminator, un robot chien équipé d'un lance-flammes. Ce robot chien que vous pouvez découvrir en images sur internet si ça vous intéresse, a été fabriqué par Throneflame. Dans une vidéo d'ailleurs que vous pourrez retrouver sur internet, sur un remix de la musique du film Oppenheimer, on peut donc le voir se promener dans les bois en crachant des flammes, à droite et à gauche, à l'aide de son lance-flammes installé sur son dos. Donc ce robot à 9 420 $ n'a pas été créé pour devenir une arme, il sert à contrôler la faune, à gérer l'agriculture et surtout à s'amuser. Par ailleurs, il est construit à partir de l'Unity Gowan et il est équipé d'une cartographie LIDAR, ce qui permet une navigation autonome. Il faut également savoir que ce robot chien est compatible Wi-Fi et Bluetooth et qu'il est contrôlé via un téléphone qui permet à la personne qui le contrôle de recevoir un flux vidéo en direct. Le Terminator peut faire de surcroît exploser des colonnes de feu allant jusqu'à 9 mètres de distance, repérant ses cibles avec un viseur laser. Le seul bémol, c'est que sa batterie n'a qu'une heure d'autonomie et son réservoir de carburant est relativement petit. Voilà, je suis le scepticisme incarné. Mais voilà, si vous avez 9 000 $ à foutre en l'air, hein, clairement, vous pourrez acheter un robot chien avec un lance-flamme. Voilà. Du coup, on va maintenant finir l'émission avec les sorties jeux vidéo de la semaine. Donc on aura une sortie dimanche 5 mai avec Solo Leveling Arise sur PC, iOS et Android. Ensuite, pour mardi 7 mai, on aura deux sorties, Nancy Drew Mystery of the Seven Keys sur PC et Venture to the Vile sur PC. On aura mercredi 8 mai la sortie de V-Rising sur PC et PS5. Et enfin, les trois dernières sorties de la semaine, ça sera pour jeudi 9 mai avec Animal Well sur PC, PS5 et Nintendo Switch, Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs sur PC, PS5 et Xbox Series. Et enfin, on aura Little Kitty Big City qui sera disponible sur PC et Nintendo Switch.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour mon émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission Asian Bubble, que vous retrouverez lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchéfette.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.